Il est 9h41 et c'est le dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
En 2011, Paul Morera avait filmé Ali et ses amis, révolutionnaires de la première heure en Syrie, criant sans armes leur colère contre la dynastie Assad. Il l'a retrouvé, Ali, cette année, en Turquie. Ali raconte le désastre humain, politique et idéologique. Les images d'aujourd'hui se confrontent au visage d'hier, un reporter de guerre face à son témoin, un journaliste face à son propre travail. Bonjour Paul Morera.
Bonjour.
Syrie, la révolution confisquée, Arte Reportage, ce sera demain à 18h35. On va en parler avec vous. C'est vendredi, un peu d'actu, une belle madeleine. Et le sieur Vandel, salut Philippe.
Salut Sonia, bonjour.
On va parler condoléances ?
Non, au contraire, tout
au
le monde
contraire,
est bien vivant.
Au contraire, au contraire.
L'Instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Allez, deux petites news médiatico-judiciaires pour démarrer. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes d'investigation au Monde, étaient nos invités lundi. Ils attendaient à ce moment-là le verdict du tribunal, ayant eux-mêmes porté plainte contre l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui les avait qualifiés, je cite, de pseudo-journalistes, de valets de l'Élysée et de membres d'un, je cite encore, cabinet noir destiné à flinguer Nicolas Sarkozy. L'injure a été reconnue hier, Valeurs Actuelles condamnée. Pourra-t-on disposer d'un délai beaucoup plus long pour attaquer un article ou un reportage en images publié en ligne et non sur le papier ? Le Sénat avait dit oui. L'Assemblée nationale, où l'on débattait justement hier de la réforme de la prescription pénale, s'est déchirée sur le sujet et a fini par rejeter cette disposition après un vote très, très serré. Vraiment, ça s'est joué à quelques voix près, estimant que les mesures prises par le Sénat remettaient carrément en question les fondements de la loi de 1881 régissant la liberté de la presse. Moi, je dirais ouf, Paul Morera. Réaction ?
À la fois ouf et en même temps, il faut. Moi, j'ai pas un avis très tranché là-dessus,
très
parce
tranché,
que quand il y a des propos diffamatoires, et tu sais qu'Internet est le réservoir de tous les propos les plus dingues et qui peuvent trasher les gens, se dire que ça va rester, si vous faites pas attention, ad vitam aeternam sur Internet, c'est un problème. Donc il faudrait pouvoir quand même réagir, si ce n'est poursuivre en diffamation, mais pour pouvoir contre-attaquer quand il y a des propos de ce genre-là qui sont tenus.
Voilà, et je précise que Paul Morera n'est pas que grand reporter, il est également producteur. Ça s'appelle Première Ligne Télé, votre maison de production, et vous produisez Cache Investigation, qui est souvent sous le feu de l'attaque et de la contre-attaque des sujets que vous traitez.
Absolument, mais on gagne toujours. Jusqu'à maintenant, on a gagné tous nos procès. Et parfois, il y a des procès dont on est très fier, comme celui de LuxLeaks qu'on a mené au Luxembourg récemment. Car il nous a permis de rendre encore plus visible une réalité qui avait été dissimulée, qui est le fait qu'il y a énormément d'entreprises, y compris françaises, qui vont au Luxembourg pour payer 3% d'impôts au lieu de 33% d'impôts comme nous tous. Voilà.
Voilà. Enfin, le week-end approche, la bouffée d'air gourmande du vendredi s'appelle l'Instant Madeleine. On va jouer avec votre mémoire de la radio et de la télé, comme toutes les semaines. Dans quelle émission entièrement animée par des femmes, Carla Bruni a-t-elle pu apprendre à faire du boudin avec Jean-Pierre Coff?
Est-ce que vous avez déjà fait du boudin ?
Jamais, jamais.
C'est incroyable, je ne savais pas du tout que c'était aussi
Est-ce que
facile.
Vous pouvez tenir 5 secondes avant ? Voilà, tenez-le bien.
Attendez, avec l'autre main, parce que là...
Voilà. Alors là, maintenant, il faudrait que vous fassiez glisser. Moi,
Non.
Qu'est-ce que vous faites ? Faites glisser ça, descendez de tranquille. Voilà. Allez-y encore. Doucement. C'est fragile, c'est du boyau naturel. Allez-y. Voilà.
Qu'il n'y ait pas des... C'est un gros boudin, ça.
Cette émission n'a duré que 2 ans et pourtant tout le monde s'en souvient. Soyez le premier à répondre l'Instant M à radiofrance.com, l'Instant M tout attaché à radiofrance.com et vous gagnez ces 2 CD Maria Callas, réédités par Lina. Oui, c'est un très beau coffret. Le Philippe Vandel du vendredi.
Je vais parler de mon week-end. J'ai regardé une émission que j'aime bien parce que les invités ont le temps de parler sans être interrompus au bout de 4 secondes. C'est Bibliothèque Médicis sur la chaîne Public Sénat. Et un des sujets était les 10 ans du musée du Quai Branly, qui s'appelait aussi à sa création le musée des arts premiers, qui avait été voulu et créé par Jacques Chirac et qui maintenant porte le nom de l'ancien président. Et parmi les invités du présentateur Jean-Pierre Elkabbach, il y avait le directeur du musée, mais également Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac. Et ce qui m'a surpris, tout le monde parlait de Chirac à l'imparfait, y compris sa fille.
D'abord, il lisait énormément. Et puis aussi des revues très spécialisées qui, bon, étaient vraiment complètement martiennes pour moi, mais très spécialisées qu'il découpait avec beaucoup de soin. Il classait les papiers extrêmement pointus sur des choses très, très spécifiques.
Alors Claude Chirac parle tranquillement de son père à l'imparfait et pas pour des souvenirs d'enfance. Alors en toute logique, j'ai cru qu'il était mort. Mais non, j'ai vérifié, Chirac était bel et bien vivant. Mais on a aussi entendu de la part de Jean-Pierre Elkabbach des phrases encore une fois à l'imparfait.
Donc c'était son jardin qui était resté secret très longtemps. Ça faisait partie de lui-même.
Alors certes, parfois étaient évoqués les débuts du musée, donc l'imparfait était parfois de rigueur. Mais Elkabbach aurait pu dire « ça fait partie de lui-même » et non pas « ça faisait partie de lui-même » puisqu'il est toujours là. Et on ne pouvait s'empêcher de penser qu'en juin dernier, le bruit courait que Jacques Chirac était au plus mal et beaucoup de journaux et de télévision avaient préparé des nécros comme ça se fait toujours dans ces cas-là. On disait aussi qu'il n'avait plus toute sa tête. Et depuis, en préparant cette émission, j'ai appris que l'émission avait été enregistrée en juin. En tout cas, en tant que téléspectateur, on ressentait un malaise terrible. J'ai encore zappé sur les chaînes d'infos pour vérifier que tout allait bien, parce que s'il était mort, il y aurait une émission spéciale ou au moins un bandeau déroulant. Et j'ai pas dû être le seul à être gêné. Peut-être que la production a passé des consignes dans l'oreillette parce qu'ensuite, au cours de l'émission, certaines phrases comportaient une double conjugaison. La phrase était dite à l'imparfait, puis au présent. Exemple, Jean-Pierre Elkabbach qui évoque les goûts de Jacques Chirac.
Et il avait un rapport avec des objets, parce que moi, je l'ai vu en tant que journaliste, quelquefois toucher les objets, les regarder, puis
très
il aimait
les
toucher.
Là, c'est
vous l'avez vu au moins, tout au long des étapes de la construction, quand il venait, il s'y intéressait, il les connaissait, et il les connaît.
Il les connaissait, il les connaît. Et alors j'en étais là de mon malaise, je me suis endormi là-dessus, et le lendemain matin, je tombe sur une pub qui passe en ce moment à la radio pour un spectacle musical d'un genre inédit, hit parade. Vous connaissez le principe, Paul? Faire chanter les vedettes des années 70 disparues. Mais attention, c'est pas la tournée des yéyés qui maintenant sont vieux. Là, c'est la tournée de ceux qui sont morts. Claude François, Dalida, Mike Brandt et Sacha Distel en live sur scène grâce aux hologrammes ou à l'hologramme. Tour de force technologique, d'où cette publicité un peu enflammée.
Sous vos yeux, Claude François, Dalida, Sacha Distel et Mike Brandt remontent sur scène et chantent leur plus grand succès. Alors, hologramme ou réalité?
Alors, hologramme ou réalité? Prends-nous pour des cons, c'est pas des zombies, ils vont pas ressortir de la tombe pour aller répéter.
Ça, c'est surtout Mike Brandt remonte sur scène. Le cauchemar, le zombie, c'est Walking Dead.
Ah mais ça c'est un autre débat, que ce soit un cauchemar. En tout cas, c'est Jacques Chirac qui va être content.
Merci Philippe. Agnès, bravo Agnès, vous avez reconnu évidemment.
Froufrou.
Froufrou, voilà, deux ans d'émission seulement. Ouais. Vous saviez que ça avait été si court, Froufrou?
Oui, parce qu'après ça a changé de nom, ben mais voilà. Je le savais.
Tout le monde s'en souvient absolument.
Ouais, génial émission.
Incroyable. Direction La Syrie avec Paul Morera.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors c'est un reportage de 25 minutes qui sera diffusé dans l'excellente case du samedi Arte Reportage, qui fait toujours des choses assez remarquables à 18h30. C'est évidemment moins dense que les films dont on vous parle souvent ici dans l'instant M, qui sont des travaux au long cours. Et pourtant ce court document dit beaucoup de choses à mon sens, à la fois du journalisme, de ses traces, de sa capacité à incarner l'histoire avec un grand H au travers de témoins, mais également de cette révolution confisquée de l'histoire avec un petit H de Ali. Et l'histoire, avec un petit H de Ali, elle retrace cette révolution étape par étape.
Je te rappelle que si on se parle au téléphone et que tu m'entends dire « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète » et que je te demande de venir me rejoindre, ça veut dire que j'ai été arrêté et que l'armée te tend un piège.
Voilà, les temps, la chronologie et les images se mélangent dans ces 25 minutes. Paul Morera, là on est en 2011, vous aviez passé illégalement la frontière, vous aviez pénétré la Syrie à la rencontre d'un groupe de révolutionnaires clandestins. Il faut nous les resituer, il faut nous les raconter.
En fait, je devais être parmi les premiers, je pense, à rentrer en Syrie clandestinement. Après, il y en a eu beaucoup, mais je voulais faire un film sur la révolution syrienne qui, à l'époque, était perçue comme une révolution pacifique avec des gens qui se tenaient par les épaules et qui chantaient leur souhait de changer de régime. Et je suis pris en charge par un groupe de révolutionnaires et je vois qu'il y a quelques kalachnikovs, mais qui sont cachés, ils veulent pas que je les filme. Et en cours de route, c'est-à-dire que j'arrive à un moment, à une jonction de l'histoire, en cours de route, ils pètent les plombs parce qu'ils se font tirer dessus une fois de plus, ils ont des morts une fois de plus, et ils décident d'attaquer. C'est-à-dire les déserteurs qui avaient pris leurs armes avec eux en quittant l'armée décident d'attaquer militairement l'armée syrienne. scène qu'on avait pu filmer. Et c'est vraiment le moment charnière.
Voilà, où ça bascule.
Où une révolution passe de pacifique à armée.
Et la mission de ce groupe révolutionnaire, c'était précisément de planquer les déserteurs de l'armée régulière, justement, qui allait petit à petit grossir les rangs de ce qu'on a appelé l'armée syrienne libre.
Et qui n'était à l'époque financée par personne. Mm-hmm. Ça, vraiment, je peux en témoigner. Il n'y avait pas de Qatar, pas d'Arabie Saoudite. Les seules armes qu'il y avait, c'était leurs armes de service. Donc, je regardais les dates de fabrication. C'était des Kalachnikov yougoslaves de 1967, de 1974. Donc, c'était vraiment... ils étaient très, très peu armés. C'était, au départ, ce n'était pas du tout leur projet. Ils voulaient vraiment un pays laïque, démocratique, comme le nôtre. Ils disaient tout le temps, on veut la même chose que vous. Et c'était très émouvant. Je me rappelle d'une scène où ils avaient organisé... D'ailleurs, ils m'avaient cramé, mais parce qu'on a été quand même très, très clandestins. Quoi. Mm-hmm. Et ils nous avaient organisé une manifestation. Moi, au début, je croyais que c'était pour qu'on la filme, mais non, les personnages principaux de cette manifestation, c'était nous. Ils nous avaient portés sur leurs épaules. Enfin, il y avait une espèce d'euphorie incroyable.
Alors justement, ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui se dessine en fait, le fil rouge de ces 25 minutes. C'est la force et le rôle des images qu'ont joué les images en 2011 en Syrie. Tout le monde y croyait à la force de ces images. Ouais. L'histoire dira finalement le contraire. On écoute une négo par téléphone qui en dit long sur ce que les révolutionnaires attendaient des journalistes étrangers.
Allô ? Filmez tout. Vous voulez y aller ?
Ouais.
Vous voulez ?
Ouais.
Allons-y. Elle est grande la manif ? Il y a du monde ou pas ? On est avec des journalistes. Ils peuvent filmer ?
Ok, great, let's go.
Il y a foule. Ça va bousculer. Mais il n'y a pas de souci. Je les emmène en voiture.
Voilà, vous pouvez filmer, filmez tout, filmez tout. Et vous le dites, Ali, au début, il pensait à la force du journalisme citoyen, c'est-à-dire que la répression sanglante, dès le départ, des manifestations, a fait des morts, et ils filmaient avec leur portable. Et on se souvient de la mobilisation des hackers pour faire sortir ces images. L'histoire, finalement, a montré que ces images n'ont servi à rien, Paul Moreira.
Bah oui, l'histoire l'a montré parce que nous n'avons pas réagi. Et enfin, là-dessus, moi, j'ai une analyse assez sévère, c'est-à-dire qu'il y avait une lucarne pour aider ces révolutionnaires. La lucarne, elle se referme, enfin, elle dure entre 2011 et 2013. Mm-hmm. Et après ça, les islamistes, les groupes armés, alors pour le coup soutenus par les États du Golfe, prennent tout l'espace, virent mes camarades de l'époque, parce que c'était l'option modérée, entre guillemets. Parce que quand
Ali
on prend
est
les
en
armes,
Turquie parce qu'il a été chassé par un groupe d'Al-Qaïda.
Tout le groupe que j'ai filmé en 2011, et c'est quelque chose d'assez douloureux, quoi, est aujourd'hui en Turquie semi-clochardisé, en essayant de faire des petits boulots, de maçons, enfin, ce qu'ils peuvent, quoi, pour faire vivre leur famille, parce qu'ils sont partis avec toute leur famille, et ils attendent que le train de l'histoire repasse, et on les a abandonnés. C'était la seule option modérée.
Et d'ailleurs, dans cette mise en abîme de vos images, parce que vous les confrontez à leurs images, vous confrontez à vos images de l'époque et au pouvoir de ces images qui finalement a été nul. Ali dit au début du reportage quelque chose de très fort, il dit « j'ai choisi un logement en Turquie duquel on voit la Syrie et pas une seconde je m'imaginais spectateur de cela. » Et lui, il dit spectateur et nous, on est téléspectateurs. Ouais. Mais finalement, tout aussi impuissant.
Absolument. Et absolument, c'est quelque chose de très triste et de très émouvant parce qu'en fait, c'est des gens qui refusent de prendre leur place en Turquie. Ils ne parlent pas un mot de turc, ils refusent d'apprendre le turc. Pour lui, il va revenir. Et alors, c'est très fort parce que, en fait, quand je vais le voir en juin 2015, je vais le voir en juin 2015, et en gros, il est super déprimé et il dit, au fond, je regrette la révolution. Si j'avais su, je serais resté chez moi. J'ai envie de dire à Bachar, ok, c'est bon, t'as gagné. Juste laisse-nous travailler et nourrir nos familles. C'est très dur pour quelqu'un qui a engagé toute sa vie au service de la révolution. Et puis, parce que l'homme est toujours ambivalent, à un moment donné, il me dit, mais je vais retourner en Syrie et je vais me battre.
Et il y retourne. Il y retourne, armé par la Turquie.
Voilà. Donc, les nouvelles conditions, c'est qu'aujourd'hui, on passe par Ankara, on montre patte blanche aux Turcs qui vous prêtent des armes. Il est parti donc avec un groupe, avec des armes prêtées par Ankara. Et pendant 3 mois, il a combattu Daesh.
Alors, il y va. Et donc là, il constate de lui-même le ravage qui a été justement...
Il tombe sur un pays en ruine.
En ruine, absolument. Et il dit, c'est votre faute. C'est votre faute.
Vous nous avez laissé tomber.
Voilà, l'Europe nous a lâchés. Ouais. Il vous dit ça en vous regardant, en regardant la caméra droit dans
les yeux. Oui,
parce
qu'il parle un peu à moi. Parce que pour eux, j'étais le premier occidental qui voyait en 2011. Ils m'ont pris pour un faiseur de miracles. Pour eux, il n'y a pas de grosse différence entre un journaliste et un envoyé du gouvernement. Pour eux, dans leur tête, c'était pareil. C'est pour ça qu'ils m'ont accueilli en pleurant de joie. Parce qu'ils ont cru que j'allais faire un miracle, quoi. Moi, je ne faisais pas de miracle, juste racontais leur histoire et j'étais très pessimiste. Parce que quand j'ai vu en 2011 qu'ils allaient petit à petit tomber, qu'il n'y aurait pas de no-fly zone. Eux, ils demandaient juste une no-fly zone. Hein. Ils demandaient pas qu'on attaque militairement Bachar. Ils demandaient juste qu'on ne puisse pas leur envoyer des bombes depuis le ciel. Mais je savais que les États occidentaux n'allaient jamais imposer à Bachar el-Assad une no-fly zone, comme ils l'avaient fait malheureusement, enfin heureusement en Irak, pour protéger les Kurdes. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Et je sentais que ça allait être 10 ans minimum pour que ce conflit se résolve et que le pays allait tomber en ruine.
Alors on écoute un des amis d'Ali que vous filmez également en Turquie. Voilà, ils sont tous face au cauchemar de Daesh et autres groupes djihadistes sur place.
C'est quoi cet islam ? Un homme décapite un autre homme en criant « Dieu est grand » en plus ? C'est incroyable. On dit que c'est Daesh. Mais c'est quoi Daesh ? La Syrie tout entière m'est devenue détestable. Moi-même, je me déteste. C'est quoi cette religion ? Même les Juifs ne feraient pas ça.
Même les Juifs ne feraient pas ça. Ça fait partie du vocabulaire.
Ça fait partie de la région. Ouais, c'est
voilà.
Qui a été en guerre. Quand ils disent les Juifs, c'est Israël. Hein, ouais. Qu'ils ont été en guerre avec Israël de nombreuses fois. Et ça fait partie de la. Mais c'est fort d'avoir un musulman qui dit qu'est-ce que c'est que cette religion qui permet qu'on ait tête que quelqu'un.
Et qui dit je me déteste moi-même.
Ouais, ouais, absolument.
Toute la Syrie m'est devenue détestable et je me déteste moi-même. Alors vous retrouvez Abou qui vous avait servi de traducteur à l'époque. Milad, lui, est parti travailler pour Al Jazeera, toujours dans cette idée de continuer à témoigner. À filmer. Deux autres ont abandonné la révolution. Tout ça se fait. Vous leur montrez vos images d'il y a 4 ans et ils vous racontent le destin de chacun. En repartant en Syrie, on retrouve Selim qui lui n'a jamais quitté sa mitrailleuse. C'est le seul de toute la bande. Il est toujours au front. Et puis ressurgit l'image de Razi. Alors,
Razi, pour moi, c'était un choc parce qu'en fait.
Pour eux aussi.
Et pour eux aussi. Ouais. Razi, c'était une sorte de géant doux. Barbu, qui était toujours autour de nous et qui veillait sur nous. C'était un peu notre garde du corps, en quelque sorte. Quand l'armée arrivait, il disait « Faites gaffe, l'armée arrive !» Il posait des sentinelles et hop, il nous exfiltrait avant qu'on se fasse attraper. Et, parce qu'à l'époque, vraiment, le pays était aux mains du régime. Et pour moi, je garde de lui l'image du bon barbu souriant qui nous prenait par les épaules, etc. Et il me le montre sur les images, il dit « Razi, aujourd'hui, c'est un émir de Daesh. » Et là, c'est un peu un choc parce que je me dis « Waouh !» Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce type qui était si sympa, si protecteur, pour qu'il passe
qui
de l'autre
côté ? Qui jurait, qui blasphémait à tout va
voilà,
à l'époque, hein,
parce
qu'ils
ont grandi ensemble. Parce que l'histoire, c'est quand même que c'est une bande de copains.
Et alors, vous essayez de retrouver Razi, vous retrouvez Razi, vous retrouvez le contact de Razi.
Via SMS,
voilà, vous proposez qu'il puisse se parler à nouveau. Réponse de Razi, je ne parle pas, je n'adresse pas la parole à des porcs.
À des porcs. Et c'est un peu un choc pour Abou Saleh qui reçoit le message, parce qu'il a grandi avec lui, hein. c'est des copains de quartier, et il dit voilà comment il nous considère comme des koufars, comme des infidèles, comme des porcs. Il ne veut plus nous parler. Et c'est y a peu de mots qui s'échangent à ce moment-là, mais dans le visage, on sent le choc que ça provoque. Quoi. Mais pour eux, ils disent, en fait, Razi, il en a rien à foutre de l'islam radical.
Il y est allé voulait du pouvoir et de l'argent.
Exactement, parce que Daesh payait $500 par mois à ces hommes. Et eux, ils n'avaient rien.
Rien.
Et ça, je peux en témoigner, parce qu'on mangeait tous dans la même gamelle et on n'avait rien. C'était les mamans qui faisaient à manger pour le groupe de combattants.
Je trouve que ce que ça fait comprendre à tout le public, un reportage comme ça de 25 minutes, c'est la force d'un personnage.
Absolument.
Vous appelez ça un personnage. Nous, on appelle ça un témoin, mais vous appelez ça un personnage
dans le
reportage.
C'est aussi un copain aussi.
Oui, mais c'est un personnage. Et finalement, en racontant en quelques mots les étapes de sa vie à lui, ça raconte une actualité folle et extrêmement complexe.
Oui, moi je crois de plus en plus, ça fait maintenant quelques années que je fais ce métier de faire du documentaire, je crois de plus en plus que moins c'est plus. C'est-à-dire que plus on s'attache à une histoire humaine, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit signifiante, il faut savoir ce qu'on fait, mais plus on s'attache à l'histoire d'un homme, plus c'est facile de s'identifier aussi, parce qu'Ali, il est comme vous et moi, quoi. On a quelque chose de très commun, quoi. Et plus c'est facile d'emmener les gens dans la complexité de la grande histoire.
Syrie, la révolution confisquée, Arte reportage demain 18h30, bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sonia De Villers, ce matin on reçoit le dieu des lexicographes, Alain Rey.
Oh, génial.
Dites-nous au téléphone, au 01 45 24 7000, quels sont vos mots préférés.
France Inter, il est 10h.